Fabienne Santès.
Bonsoir Charline et les amis. À demain pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Il est forcément, une fois de plus, très largement tourné vers l'Ukraine. Soyez les bienvenus sur une planète tourmentée et sa banlieue aussi. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du lundi 7 mars avec le journal de Sébastien Logeni. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence par des pénuries.
Pénuries de nourriture, d'électricité, mais aussi de médicaments. C'est le cas notamment dans la ville de Kiev, presque encerclée par les forces russes. Nous serons dans la capitale ukrainienne avec une population qui craint désormais pour sa santé. Au 12e jour des combats, l'actualité, c'est aussi la question des couloirs humanitaires. La Russie a proposé ce matin d'en ouvrir, mais en direction de la Russie et de la Biélorussie. Pas question, ont répondu les autorités ukrainiennes. Cynisme moral et politique dénonce de son côté Emmanuel Macron, on l'entendra. À suivre aussi l'arrivée d'une famille franco-ukrainienne à Marseille après un long périple en Europe. Les risques d'un nouveau choc pétrolier, les prix du gasoil ont pris 14 centimes en une semaine. Valérie Pécresse qui drague le vote féminin dans la campagne pour la présidentielle et la remontée des cas de Covid en Europe.
À 18h15, un jour dans le monde avec le grand spécialiste de géopolitique Dominique Moisy ce soir. Nous essaierons de comprendre en quoi nous ne sommes qu'au début de ce qu'il appelle un Big Bang géopolitique. On se demandera ce qu'on peut faire de plus, nous les Européens, sans entrer en guerre avec la Russie, ce qu'il faut comprendre aussi de l'attitude des Américains et de celle des Chinois. À 19h20, c'est le téléphone sonne. La campagne électorale est donc officiellement lancée. 12 candidats sur la ligne de départ, mais surtout une ligne de front ukrainienne dans cette campagne qui forcément ne ressemble à aucune autre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle est faussée, cette campagne, ou simplement différente? À 34 jours du scrutin, vos questions, vos réflexions sont les bienvenues au 01 45 24 7000.
France Inter.
La ville de Kiev, donc, dans la ligne de mire des chars russes.
Après 12 jours de bombardement, la capitale ukrainienne est toujours aux mains des Ukrainiens. Pas d'avancée majeure aujourd'hui de l'armée russe, mais malgré une résistance acharnée, l'étau se resserre chaque jour un peu plus. La ligne de front ne serait plus qu'à 20 km de la ville. Le nord, l'ouest et l'est de Kiev sont quasiment partout aux mains des Russes. Au moins 13 personnes sont mortes aujourd'hui dans des bombardements qui ont touché une boulangerie industrielle à Makariv, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Kiev. Information des services de secours ukrainiens. Alors face à cette progression inexorable, la population s'organise par tous les moyens pour faire des stocks de nourriture, d'essence, mais aussi de médicaments. Les pharmacies sont dévalisées et surtout fermées. Quand les habitants craignent de ne plus pouvoir se soigner, c'est un reportage de nos envoyés spéciaux Boris Loumagne et Laurent Maketti.
Les quelques personnes que l'on croise dans les rues désertes de Kiev sont devant les rares pharmacies ouvertes. Beaucoup de gens ont besoin d'insuline, me dit Yola.
C'est difficile d'en trouver, il n'y en a que dans quelques pharmacies. Ça fait une heure et demie que j'attends, la plupart des pharmacies du quartier sont fermées.
Effectivement, seules quelques pharmacies assurent un service minimum. Ici à Kiev, une partie des pharmacies ont quitté la ville et puis il y a des problèmes de réapprovisionnement à cause des routes bloqués. Les médicaments se font rares. Dans la queue, Tiziana s'inquiète.
Je suis venue chercher des médicaments pour ma mère, pour son cœur. C'est vital pour elle. Elle a déjà fait 3 infarctus. Hier, nous avons passé la journée à chercher ces médicaments, mais nous n'en avons pas trouvé. Je suis très inquiète pour sa santé. Ma mère a 85 ans, beaucoup de problèmes de santé. Elle ne peut plus bouger.
Dans la file indienne de la pharmacie, une discussion s'engage entre deux retraités. On a besoin de calmants pour dormir. Si tu n'arrives pas à t'endormir, lis le Capital de Marx, lui répond un vieux monsieur en souriant.
Voilà. Le sens de l'humour malgré la guerre. Reportage à Kiev de Boris Loumagne et de Laurent Maketti. Plusieurs autres grandes villes ukrainiennes sont-elles totalement encerclées? Kharkiv à l'est, deuxième ville du pays, pilonnée nuit et jour. Mariupol près de la mer d'Azov, verrou stratégique, toujours sous contrôle ukrainien malgré les bombardements. Et puis la ville d'Odessa, elle reste encore épargnée, mais le principal port d'Ukraine au sud craint d'être la prochaine ville sur la liste. Plusieurs tentatives pour évacuer les civils ukrainiens ont eu lieu ce week-end et ont échoué à chaque fois, notamment à Mariupol où 200 000 civils sont menacés. Des couloirs humanitaires devaient être mis en place, des couloirs à chaque fois visés par les forces russes, les routes parfois minées. Les Russes ont donc de leur côté proposé ce matin l'ouverture de plusieurs couloirs humanitaires humanitaire, mais tous en direction de la Russie ou de la Biélorussie. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Sébastien.
Une proposition en forme de piège, pourrait-on dire, refusée en bloc et par les autorités locales et par les Occidentaux, la France au premier rang.
La France qui n'a jamais demandé ces couloirs humanitaires, contrairement à ce qu'affirme le Kremlin, et encore moins pour embarquer des civils ukrainiens à destination de la Russie ou de la Biélorussie, d'où la mise au point d'Emmanuel Macron en début d'après-midi sur LCI.
Je ne connais pas beaucoup d'Ukrainiens qui ont envie d'aller se réfugier en Russie. C'est une hypocrisie. Et donc c'est un artefact de communication que je réprouve. Et donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut que les acteurs de l'humanitaire puissent intervenir, qu'il y ait donc des trêves complètes quand ils interviennent, pour mettre en protection les femmes, les enfants, les hommes qui doivent être protégés, et pouvoir les sortir de la zone de conflit. Donc c'est pas simplement des couloirs qui sont tout de suite menacés, et c'est pas ce discours hypocrite qui consiste à dire « on va aller protéger les gens pour les emmener en Russie ». Tout ça n'est pas sérieux, c'est du cynisme moral et politique qui m'est insupportable.
La Russie accuse maintenant l'Ukraine d'empêcher l'évacuation de civils des zones de combat. Cette question des couloirs humanitaires est censée se trouver au cœur des pourparlers russo-ukrainiens cet après-midi à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie. Le principe de ces corridors avait été négocié lors des précédentes discussions entre les belligérants jeudi dernier, sans aucune application concrète jusqu'à présent.
Bertrand Galichet, merci de la rédaction internationale. Les Ukrainiens qui ne sont pas encore pris au piège tentent de fuir par dizaines de milliers chaque jour. Plus d'1 700 000 personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion. Et ce sont 5 millions d'Ukrainiens qui pourraient se retrouver sur les routes de l'exil si les bombardements continuent avec cette intensité. Bientôt la plus importante urgence humanitaire en Europe pour les prochaines années, selon la Croix-Rouge. Parmi ces exilés, une famille franco-ukrainienne dont nous vous parlons depuis la semaine dernière, la famille Pla, séparée entre un mari français resté à Perpignan et sa femme bloquée en Ukraine avec ses deux enfants et sa mère depuis le début du conflit. Eh bien, Faustine Calmel, depuis aujourd'hui, ils sont à nouveau tous réunis.
En ce moment à 5 dans la voiture pour rejoindre Perpignan depuis Marseille où l'avion transportant la famille s'est posé en début d'après-midi. Le voyage avait débuté samedi à l'aube après plusieurs jours bloqués dans sa ville de Mykolaïv à l'est d'Odessa. La trentenaire Elina décide de partir en accord avec son mari Gabriel.
Fin de semaine dernière, elle a eu un contact en fait avec quelqu'un qui organise des trajets avec un bus. Donc c'était oui, c'était non parce que le conducteur veut plus prendre ce risque d'y aller, sachant que le bus qui les précédait avait essuyé des tirs.
Mais au vu de la situation, Elina se fait quand même inscrire sur la liste de ce qu'il faut bien appeler un passeur.
Le système est pas clair ou légal, hein. On sait très bien comment ça se passe dans les zones de guerre, mais c'est les seuls qui font quelque chose pour mettre les gens à l'abri, malheureusement. Je crois que le trajet, il y a coûté une trentaine d'euros par personne, ce qui est pas énorme, hein. Mais là-bas, le salaire moyen, c'est $280 par mois.
Et trop cher donc pour de nombreux proches d'Elina.
Je suis tellement soulagée d'avoir pu partir avec mes enfants et d'être en sécurité avec eux. Mais maintenant, je me sens aussi très mal parce que moi, j'ai pu échapper à cette guerre, mais pas une partie de ma famille et mes amis.
La famille espère bientôt pouvoir accueillir la sœur d'Elina qui tente-t-elle de quitter l'Ukraine par la Hongrie.
Le récit de Faustine Calmel. Au chapitre des conséquences économiques, c'est le prix du carburant qui inquiète de plus en plus, poussé à la hausse par les craintes d'un possible embargo sur le pétrole russe. Les cours du pétrole ont atteint plus de $130 le baril aujourd'hui, du jamais vu depuis la crise de 2008. Résultat, le prix à la pompe du gasoil a pris 14 centimes le litre du litre en moyenne en seulement une semaine en France. Alors, est-on face à un nouveau choc pétrolier? La réponse de Thomas Pellerin-Carlin, il est directeur du Centre Énergie et l'Institut Jacques Delors.
Le quatrième choc pétrolier, on vise déjà dedans. Cette hausse des prix des énergies fossiles, elle date pas de la guerre en Ukraine. Ça fait plusieurs mois à avoir cet effet sur les prix à la pompe. Donc là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas l'envolée des prix du baril lié à l'Ukraine, c'est lié à tout ce qui s'est passé sur le marché du pétrole depuis 3 à 6 mois. On est sur l'invasion de l'Ukraine qui amplifie une hausse des prix qui est déjà là depuis des mois. Ça peut monter très très haut là-dessus. Pour l'instant, on reste en dessous du pic historique qui a été à $140 le baril. Ces prix reflètent en partie l'offre et demande réelle de pétrole, mais aussi les paris, si je puis dire, sur le futur que prennent aujourd'hui les investisseurs qui estiment que les prix du pétrole vont augmenter, donc du coup, il vaut mieux en acheter maintenant. Et ça nous rappelle du coup que dépendre des énergies fossiles, bah, économiquement, c'est en fait désastreux. Dès qu'il y a des fluctuations sur les prix des marchés mondiaux, ça risque de créer des phénomènes d'inflation chez nous, voire même de casser la reprise économique.
Voilà, Thomas Pellerin-Carlin de l'Institut Jacques Delors. Il était avec Delphine Simon. Face à cette hausse des prix de l'énergie, le gouvernement confirme sa politique de soutien au pouvoir d'achat. Le gel du prix du gaz et le bouclier tarifaire sur l'électricité devraient coûter 22 milliards d'euros selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. À noter enfin cette déclaration du chancelier allemand sur ces questions énergétiques. Les importations d'énergie fossile en provenance de la Russie sont essentielles pour la vie quotidienne des citoyens en Europe. En clair, pas question pour l'Allemagne de se priver du gaz russe à ce stade. Et puis, ajoutons pour finir sur ce dossier que l'Union européenne a lancé aujourd'hui la procédure pour l'examen des demandes d'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie et de la Moldavie, le début d'un long processus. Le conflit en Ukraine s'est aussi retrouvé sur franceinter.fr avec les moments marquants de ce 12e jour de guerre.
Quand le président Sébastien se démultiplie sur tous les terrains. Le
terrain diplomatique, évidemment, on l'a entendu avec cette réunion, notamment sur l'Ukraine, d'Emmanuel Macron et de Joe Biden. Terrain politique aussi avec un premier déplacement de campagne aujourd'hui du candidat Macron à Poissy dans les Yvelines pour une conversation avec 250 habitants. D'ici une demi-heure, on y reviendra dans le journal de 19h d'Hélène Filly. Valérie Pécresse, elle, est en campagne sur les droits des femmes à quelques heures d'un débat télévisé sur la parité auquel participeront plusieurs candidats. La candidate de la droite est allée à la rencontre de salariés dans un hypermarché de la région parisienne à Taverny. Une manière de se démarquer d'Éric Zemmour. C'est le reportage d'Anne Souhaitemont.
Vous êtes technicienne
de maintenance.
Valérie Pécresse à la rencontre de la France qui se lève tôt, direction les rayons d'un hypermarché emblématique de la parité.
Sur le magasin, il y a 347 collaborateurs, il y a 175 femmes.
À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, Valérie Pécresse drague l'électorat féminin. Conférence des salaires avec les entreprises pour vérifier que l'égalité salariale est une réalité et développement des mécanismes permettant aux femmes de mieux s'insérer sur le marché du travail.
L'égalité femmes-hommes passe par l'alternance. C'est grâce à ce coaching, à ce pied mis à l'étrier qu'elles ont pu réussir, qu'elles ont pu oser, qu'elles ont pu briser l'autocensure. Et c'est très important pour moi cette question de prendre confiance, oser les études. Et ça se fait grâce notamment à l'alternance en entreprise.
Abattre la carte femme.
Élire une femme présidente de la République, ça doit changer quelque chose à la condition des femmes.
Et se démarquer encore une fois d'Éric Zemmour, car même si elle refuse l'invective...
Il est misogyne Éric Zemmour ou pas, madame Pécresse ?
Le match est bel et bien lancé avec l'ancien journaliste qu'elle doit affronter jeudi en débat. Objectif, passer la barre du premier tour.
Le reportage d'Anne Souhaitemont. L'État français n'est pas un assassin. Les propos du tout nouveau préfet de Corse aujourd'hui, en réponse au slogan largement repris hier en Corse lors des manifestations organisées depuis l'agression d'Ivan Colonna, toujours entre la vie et la mort à l'hôpital de Marseille. 11 collèges et lycées ont aussi été l'objet de blocages ou de tentatives de blocage menées par des élèves en soutien aux militants indépendantistes. On termine avec l'épidémie de Covid que l'on pensait derrière nous, mais un chiffre vient à nouveau inquiéter les épidémiologistes. Plus 6% de cas par rapport au week-end de la semaine dernière. Une remontée que l'on observe en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Les précisions d'Antoine Flao, professeur de santé publique à l'Université de Genève.
On voit en effet que soit la décrue épidémiologique qu'on avait pu observer en France de façon très très prononcée ces dernières semaines est désormais stoppée, soit même ça remonte. Par exemple, aux Pays-Bas, ça remonte de façon très très brutale en ce moment. Et en Suisse, on voit aussi une remontée assez forte. C'est parti même, j'irais, du Danemark, où d'ailleurs la mortalité continue à monter de façon assez préoccupante. Alors, on peut dire que la plupart des pays européens ont commencé à relâcher un peu prématurément les gestes barrières, les différentes mesures. Et je pense qu'on peut craindre en effet qu'un sous-variant de l'Omicron, qu'on appelle le BA2, est en train de remplacer celui qui nous avait tant fait monter les incidences au mois de janvier, le BA1. Et donc, on ne sait pas très bien si ce BA2 va entraîner une nouvelle vague ce printemps en Europe.
Voilà, la remontée des chiffres du Covid en France et en Europe, c'était Antoine Flahaut avec Hélène Chevalier.
Et merci beaucoup Sébastien Lougénie. À tout de suite dans Un jour dans le monde, parce que la Terre tourne malgré tout. Il n'y a pas que de très mauvaises nouvelles. Vous nous parlerez d'un glacier près de Santiago que le Chili entend protéger. Ce soir, nous allons interroger avec Dominique Moisy, notre grand invité dans Un jour dans le monde. Ce soir, nous interroger sur ce Big Bang géopolitique que nous sommes en train de vivre. Vous retrouverez aussi les notes vocales de Caroline Gillet. Vous ferez connaissance avec la jeune Anastasia. Et puis en deuxième heure, c'est le téléphone sonne au milieu de ce chaos. Il y a une campagne électorale, figurez-vous, qui officiellement a commencé en France. 12 candidats qui sont bien là, mais pour quelle campagne? Est-ce qu'on se dit que ces 34 jours qui nous séparent du premier tour auront un sens ou pas du tout? Est-ce que, au contraire, c'est une autre campagne qui, contrairement aux précédentes, aura un prisme international? Vos questions, vos réflexions, ça se passe bien sûr au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Élodie Calac, bonsoir. Dégradation par l'ouest, voilà pour demain.
Oui, de la Bretagne jusqu'au sud-ouest, une perturbation s'invitera avec un vent de sud et puis un ciel gris et pluvieux l'après-midi. Il neigera un petit peu sur les Pyrénées, vers 1200 mètres. Le ciel s'ennuagera également jusqu'au Cotentin, à l'ouest du Massif central et au Roussillon. Sur le Languedoc et les Cévennes, un ciel très nuageux avec quelques pluies et poussé par un vent de sud-est. Le vent d'OTAN soufflera d'ailleurs jusqu'à 60 km à l'heure de l'Aude au midi toulousain. Du nord de la Seine vers la région parisienne, le centre-val de Loire, le nord-est et l'Auvergne. Rhône-Alpes, là ce sera du soleil et toujours un petit risque d'averse pour la région PACA et le sud de la Corse.
En revanche, il va faire plus doux.
Oui, belle hausse des températures l'après-midi, parfois 5 à 6 degrés de plus qu'aujourd'hui. Il fera 10 à 16 degrés au nord demain, 12 à 18 au sud. Et puis le matin, patience tout de même puisque les gelées seront encore nombreuses.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure après 19h.